Reste à côté de moi. Bon, eh bien, je vous souhaite le bonjour et je vous remercie tous d'être venus si nombreux parce que c'est toujours étonnant. On ne sait jamais d'où vous sortez, mais vous arrivez au bon endroit. Donc, et je vous présente, notre association vous présente ses meilleurs vœux 2017. Je remercie les membres de la municipalité, comme Monsieur le maire, qui sont présents. Je remercie les membres du club d'histoire qui sont venus en force. Je remercie des gens de Racine qui sont venus aussi, certains de Brive même, et d'autres qui viennent en fait de tous les alentours. Et je vois ici Monsieur Flandin-Bletti qui est notre prochain conférencier le 11 mars. Alors, parler des Visigoths, c'est en fait parler d'un point d'histoire que personnellement, moi je ne connais pas très bien, même presque pas, mais qui s'inscrit dans une période de difficultés, de transition peut-être entre entre la civilisation romaine et gallo-romaine et la future civilisation que nous aurons, une civilisation issue des peuples barbares, ceux qu'on appelait les barbares, mais qui n'étaient rien, qui n'avaient rien de barbare, mais qui simplement vivaient aux confins de l'Empire romain. Donc c'est parler de ce 5e siècle après Jésus-Christ, très très troublé, où on se dispute les terres, où l'on se dispute les provinces. Et c'est donc parler d'une période à la fois d'obscurantisme, enfin, j'aime pas beaucoup ce terme, à la fois de troubles inimaginables, où on a des changements de pouvoir, où les notables gallo-romains vont céder parfois le pas, aux fameux Visigoths et puis ensuite aux Germains. C'est en fait la période de l'affrontement entre ces peuples du Nord et ces peuples du Sud, que l'on appelle les Gallo-Romains, mais aussi les Visigoths qui ont toujours été fidèles à l'Empire romain. Alors ces Visigoths, M. Delbru va vous le dire, je pense, sont venus les Ostrogoths, c'est l'inverse, c'est les peuples qui sont allés à l'Est. Donc les Visigoths venaient de l'Ouest, mais ils sont d'origine germanique, comme les Ostrogoths, leurs cousins germains. Alors, Monsieur Delbru est quelqu'un qui a été pendant très longtemps chercheur et qui a travaillé à l'Université de Bordeaux, qui a beaucoup travaillé à l'étranger. Il va mieux se présenter. Et qui, maintenant qu'il est à la retraite, et ben, comme beaucoup d'entre nous, il se passionne, il travaille activement, il se passionne pour l'histoire locale et il travaille dans de nombreuses associations. Je ne vais pas en dire plus, je vais simplement vous dire que vous avez les programmes des amis du musée, que vous pouvez vous servir au passage en sortant et qu'à la fin vous aurez un pot pour vous réchauffer. Voilà. Je vous donne.
Bon, je vous remercie d'être aussi nombreux, je ne m'attendais pas à ça, ça me fait toujours plaisir. Moi, je ne suis pas très loin, je suis originaire de Borez, on va voir pourquoi c'est important. J'ai pas mal voyagé, disons, j'ai passé 8 ans en Algérie, j'ai passé plusieurs années en Afrique, Moyen-Orient, j'ai pas mal traîné mes bottes un peu partout, mais je ne suis pas historien patenté. Voilà. Je me suis frotté à l'Empire romain dès ma jeunesse parce que je travaillais sur la steppe algérienne à promouvoir la révolution agraire, c'était dans les années 75. Quand on veut travailler sur une réforme agraire, on est obligé à s'intéresser, à la propriété. Or, fondamentalement, la propriété, c'est une propriété qui est de droit romain, en Africa Romana, comme du côté de la Mauritanie césarienne. Ça vous dit peut-être pas trop de choses. Sachez que les Romains ont pris Carthage, qui se sont installés à Carthage, mais qui ont eu affaire à Jugurtha, à Massinissa, un certain nombre de personnes qui se sont, ou Hannibal, pour mais on connaît peut-être bien Hannibal, qui sont venus d'Afrique, de cette Afrique romaine, qui a joué un rôle important. Et ce qui m'avait étonné à l'époque, c'est qu'on trouvait fréquemment, dans les titres de propriété anciennes, on trouvait des vétérans de l'armée romaine qui venaient de l'humeur d'Adrien. Et puis, je suis passé à autre chose, je suis socio-économiste, donc je m'intéresse aux sociétés et à l'économie, mais je suis passé à autre chose. Ils étaient sur la Pologne. Ce sont des gens qui se déplacent, ils cultivent pendant quelques temps, pendant un an, ils se déplacent. Et il a fallu une dizaine d'années pour remonter, ou une quinzaine d'années pour remonter une partie de la Vistule. Là, c'est la Vistule, hein. Ils vont remonter, et ils vont descendre progressivement, ils vont rentrer en contact avec le monde romain. Ils vont rentrer à eux, et c'est là où se fera la séparation entre Ostrogoths et Visigoths. Les Gépides, ils les ont suivis. Ils ont suivi depuis le début. Ils sont quasiment assimilés à des Goths. Voilà, sur les... Alors, ils vont séparer entre les Goths de l'Ouest et les Goths de l'Est, les Visigoths et les Ostrogoths. Les Goths de l'Ouest s'appelleront, on les nomme les Goths sages. Alors, il y a des débats là-dessus, hein. Je vous dis, c'est les Goths sages. Tandis que les Goths de l'Est seraient les Goths brillants. Ça, c'est... Et là-dessus, il y a quand même des débats. C'est pas aussi clair que ça, souvent. On sait que les Ostrogoths et les Visigoths se sont séparés en raison des conflits qui ont commencé à apparaître avec l'Empire romain. Donc il va y avoir des tensions, il va y avoir avec les Romains, mais aussi ils vont commencer aussi à se romaniser, c'est-à-dire qu'ils vont échanger, mais ils vont être essentiellement sur des échanges, sur linguistique et marchand. Donc les Visigoths et les Ostrogoths vont se trouver l'un et l'autre, mais derrière les Ostrogoths, derrière le Dniepr, il y a aussi une autre, les Huns sont derrière, et les Huns vont assez rapidement dominer les Ostrogoths. Alors les Ostrogoths qui avaient une ascendance sur les Gispides, les Gépides vont passer sous la dépendance des Huns. Et les Huns vont se libérer de cette dépendance déjà à la fin du quasiment au IVe. Voilà un petit peu un bref historique. On reviendra après si vous le souhaitez. Alors, quels étaient les fondements de culture go à l'époque où ils arrivent, disons, en Dacie? Dacie, j'ai oublié de le préciser, c'est la Roumanie actuelle. Or, fortuitement, il y a quelques années, j'ai pu aller en Dacie. Et effectivement, c'est la période, les Roumains, c'est la lieu où les légions romaines ont perdu la 13e légion, il me semble. Et la Dacie, c'est une zone plutôt humide dans laquelle ils vont s'installer. Alors, quelles sont les valeurs des mythes de ces Goths? Alors, ils ont une cosmogonie qui est un peu similaire un petit peu aux autres Germains. C'est-à-dire, on va se retrouver avec Odin, bien sûr, et un certain nombre de choses autour d'Odin, ses valeurs. Bon, on ne va pas les développer ici. Hein. Pardon? Les Goths, ça veut dire Go. Godo. C'est, dans le sens Godo, c'est le terme Go qui a un sens positif. C'est pour ça que je vous ai mis en Godo positif, c'est-à-dire les Go sont des hommes positifs qui se déplacent. Dans le sens aussi déplacement. Et ensuite, j'ai mis le terme espagnol, Bracio, pour ceux qui parlent espagnol, peut-être parmi vous, Bracio Godo. Mais là, c'est un sens positif aussi, vous voyez. Vous avez entendu, ça veut dire personne très riche, Godot. Et en France, ça a donné gueux. Oui, vous voyez un peu. Et c'est, bon, ça s'est développé, ça, à partir du 5e siècle, hein, ça a donné gueux. Donc ça fait des éléments qui sont totalement, tellement différents. Ensuite, deuxième élément important de la cosmogonie des gueux, c'est barbare. En go, l'ours, ça se dit d'arbor. Vous voyez ? Et elle arrive à cette chose-là. Donc le barbare, le go, est le fils de l'ours. Et l'ours est le médiateur entre les dieux et les hommes, voilà. C'est la force combattante, c'est la force, se vêtir d'une peau d'ours, c'est communier avec la nature, c'est prendre la force tranquille, sa force tranquille et sa puissance sexuelle. Bon, jusque-là, ça va. D'ailleurs, ça va beaucoup. Là. Les anciens, donc il y a un culte des anciens, à l'occasion de... Quand on va préparer de rite d'initiation ou quand on se prépare au combat, on va évoquer ces anciens, leur courage, les miracles qu'ils ont pu faire, ou les choses magnifiques qu'ils ont pu faire, et on va cultiver un discours à leur propos. Alors les hommes, les anciens sont des sages par définition, s'ils sont vivants, s'ils sont morts, bien, c'est aussi des sages qu'on évoque, et les femmes jouent un rôle important aussi dans, dans les magies naturelles. Les femmes, à cette époque-là, à l'époque de la Dacie, jouent un rôle important, y compris comme guerrières. Elles vont être un petit peu supplétives, bien sûr, elles assument les chariots, elles assument, mais elles mettent la main à la pâte s'il faut prendre un arc ou s'il faut prendre d'autres choses de ce type-là. Ensuite, des rites qui permettent des transferts de savoirs ancestraux qui sont propres à chaque groupe villageois. Et ces transferts et ces rites qui s'opèrent font la caractéristique un peu des Visigoths, enfin des Goths d'une manière générale, par rapport, par exemple, aux autres Germains, dont les Francs. Et ensuite, le troisième élément, ce sont les oies. Les oies sont les oiseaux sacrés des goûts. Alors, ce qui permet déjà de voir les oiseaux, évidemment, mais surtout les oies. Alors, pour vous, vous avez peut-être entendu parler de Pédauk. Oui, Pédauk. Pédauk, on va voir pourquoi c'est important. Alors, je mets un mot au go, par exemple, Gondobol, c'est les oies messagères. Elles sont messagères aussi des dieux. Voilà, ok. Voilà, on va passer à l'autre... Alors là, ça c'était la première migration qui ont amené donc au 1er siècle les Goths du Nord jusqu'à ce qu'ils se distinguent dans la région de Dacie. Ensuite, la deuxième migration que j'avais écrite dans ces... la deuxième migration, ça va être une migration qui les a amenés de ces régions de l'Ukraine, de Dacie. Ils vont amener toutes ces populations jusqu'à l'Espagne en, deux siècles. Alors, ce qui fait la caractéristique des Goths, c'est qu'ils vont être tantôt alliés, tantôt ennemis des Romains. Alors, ça pose un problème, parce que une lecture de problème de lecture historique. On vous dit les Goths sont ennemis des Romains. Non, ils sont dans l'armée romaine. Le septième personnage de l'État, en 375, était un général Goth. Mais les Romains avaient une grande facilité, ce qui a fait leur force, c'est d'assimiler les populations. C'est-à-dire qu'ils s'arrangeaient à faire sortir des élites, les éduquer à Rome et les renvoyer chez eux. Il a souvent réussi, pas toujours. Avec Attila, il n'a pas réussi. Bon, mais c'est tout. Mais les Goths, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, les premiers contacts avec les Goths, on a amené les enfants des rois Goths, on les a amenés à Rome, de gré ou de force. Ils n'étaient pas réellement prisonniers, mais ils étaient éduqués comme des hauts dignitaires romains. Ce qui fait qu'il y a une transmission qui s'est faite plutôt bien de la culture romaine dès le IIIe siècle. C'était un moyen d'assimiler les populations. Ça s'est fait avec les Gaulois, ça s'est fait avec les Goths, ça s'est fait avec toutes les populations, ce qui a permis à l'Empire romain d'être ce melting pot qu'on connaît avec toute sa richesse, avec toute la richesse qu'on a pu voir. Donc, le royaume... Le royaume visigoth deviendra, au contact des Romains, va se romaniser. C'est un début de romanisation. Si vous voulez, en haut de la Vistule, on avait des gens qui étaient des nomades, semi-nomades. Ils sont devenus essentiellement nomades et guerriers. Et puis, ils vont se mouvoir, comme on va en parler à présent, sur des milliers de kilomètres et à servir ou se servir quelquefois. Alors, ensuite, la culture Go. Alors, parmi les éléments de culture Go qu'on trouve ici, vous avez un certain nombre d'éléments qui sont ici, qui viennent du Musée national de Paris, de Cluny. Si un jour vous avez l'occasion d'aller voir, c'est un des seuls endroits en France où il y a quelques éléments de ce qui reste des Visigoths en France. Hein, donc vous avez une couronne, des pendentifs, des différents éléments et quelques chapiteaux. Alors, ce qui fait, on voit bien la transition qu'il y a chez les Goths, c'est qu'ils vont devenir de véritables éponges en matière culturelle. C'est-à-dire qu'ils vont se confronter au peuple iranien, au peuple turc et un, ils vont retirer de chacun d'entre eux, ils vont apprendre. Et c'est ce qui fait aussi leur qualité à travers l'histoire, c'est-à-dire que ces éponges, contrairement aux autres germains qui resteront comme assez guerriers, uniquement guerriers, eux vont développer d'autres formes de culture en même temps qu'ils vont se sociabiliser, j'allais dire. C'est peut-être un peu fort, mais... On va voir. Ensuite, ils vont utiliser des techniques qu'ils ont apprises chez, par exemple, ils ont dominé les sarmates. Ils ont dominé les sarmates, et les sarmates étaient d'excellents cavaliers. Et on les appelle comment, les sarmates, encore? Ça n'est jamais sorti de l'esprit. La civilisation des steppes. Non, c'est pas des... Oui, c'est... Les sarmates étaient des... Oui, je ne sais plus. Il y a eu une expo il y a quelques années là-dessus qui était fameuse. C'est un peuple aussi migrateur, hein, et qui était très porté sur la chevalerie. Oh, excusez-moi, l'âge venant, on peut perdre la mémoire de temps en temps de quelques noms. Les Scythes, merci. Ah, voilà, c'est ce que je cherche. Les Scythes, l'or des Scythes. Vous vous souvenez, hein. L'or des Scythes, c'est quand même quelque chose d'assez fameux. Eh bien, des Scythes, et entre Samates, ils ont retiré tout un travail sur l'or et sur la cavalerie. Alors ça va devenir de fameux cavaliers. Et tous les combats qui vont les amener pendant des décennies, tous ces combats-là, vont être gagnés par eux à cause de leur cavalerie. Quand on va les retrouver à pied, ils sont plus très très bons. Voilà. Donc les Goths, on l'a dit. Donc c'est important de voir la capacité d'absorption, c'est-à-dire qu'ils sont aussi capables d'absorber des techniques que de l'art, que de la culture, et aussi des religions, puisqu'on va y arriver. Voilà, on y arrive. Des religions, c'est-à-dire qu'ils vont devenir chrétiens au contact des premiers chrétiens, qu'on peut appeler orthodoxes, les premiers chrétiens vont être en contact avec eux, et ils vont se christianiser très rapidement. Mais quand on dit se christianiser, c'est aussi garder ses traditions, ses relations, etc. C'est-à-dire que ces rites passagers, le respect des anciens, les ours, tout ça, ça reste, hein. Mais ils vont reconnaître Jésus dans toutes ses qualités. Donc, ils se romanisent aussi avec l'appui d'Urfila qui va leur écrire une Bible. Alors, c'est le premier document écrit en Go, c'est une langue qui a disparu, évidemment. C'est le premier document qui a été écrit en Go et qui va se faire la synthèse entre le grec, du latin et du rune. Rune qui est la langue des gens du Nord. Donc, et ensuite, il va le calligraphier, parce qu'il n'y a plus, les Goths n'ont pas d'écriture encore. Et à partir de la création de cette Bible, ils vont avoir une écriture dans quelques décennies. Je dis, parce que cette écriture a complètement disparu. Il n'y a plus personne qui écrit en Go. On a repris des lettres gothiques, on a écrit en français en Go, mais ce n'est pas ce Go-là, ce n'est pas, cette écriture goth de base. Ensuite, ils vont être adhérents, après le concile de Nicée, qui voit la séparation des églises d'Orient et d'Occident, sous Constantin, hein. D'un côté, alors qui va être le renégat de l'autre, hein, qui va être... on ne sait pas trop, hein, parce qu'à l'origine, c'est la foi orthodoxe. Arius, l'évêque Arius, essaye de garder les règles du christianisme orthodoxe. Et ces deux évêques qui viennent de Rome, qui vont imposer, en même temps qu'on s'entend, il y a des problèmes de jeu politique importants entre l'Occident romain et l'Orient romain, ils vont imposer une religion, quasiment une religion d'État, et qui va être, pour Rome, l'évêque de Rome devient catholique. Et là, ça peut, et d'aucuns parmi vous peut-être savent déjà, c'est pas le débat, mais il s'agirait d'un faux. Ça a été un faux qui aurait fait en sorte que Constantin confie à l'évêque de Rome l'Empire romain d'Occident. Voilà, bon, on ne va pas rentrer là-dedans. L'arianisme a eu de grandes religions. Qu'est-ce qui fait aussi le problème de l'arianisme? C'est quoi? C'est la Trinité. La Trinité. L'arianisme, on s'est quand même écharpé pendant des millénaires là-dessus, on s'est éventré sur ce thème-là. La Trinité, c'est la foi catholique qui a dit que le Fils Jésus est l'égal de son Père et Dieu lui-même. Et cela n'est pas. Ça a été une invention et Marie était la mère de Dieu. On le dit tous les jours, ça passe comme ça, mais Marie est la mère de Dieu. Non, c'est la mère de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est un médiateur de Dieu. Pour les Ariens et pour les orthodoxes, y compris pour notre religion. Donc c'est important de voir qu'on va s'étriper sur ça quand même. C'est quand même important. Alors, c'est la théologie de Rome qui devient l'orthodoxie et les orthodoxes qui deviennent des Ariens. C'est la même version. En Occident, toujours. Alors, pourquoi c'est important de parler de la religion? Parce qu'ici, quand ils vont être ici, ils vont être les constructeurs de la plupart des églises que nous connaissons qui, dans leur phase romane et anté-romane, ont été des églises ariennes. C'est eux qui ont construit beaucoup de... Ils ont construit, puisqu'ils étaient là avant, ils ont construit plus d'églises de type arien que d'églises catholiques à certaines périodes. Voilà, donc c'est important de voir que cette influence est importante ici, on va la voir arriver. Alors, ça je vous l'ai dit, je vous l'ai montré ça, non?
Non.
Ah bon, je sais plus. J'ai trop développé le reste, là. Excusez-moi. Bon, voilà un morceau de la Bible de Pia. C'est ça, le caractère runique et grec. Alors bon, on voit que ça, au point de vue image, si vous le regardez de loin, vous allez dire, tiens, c'est du gothique. Du gothique au sens longtemps, au XIVe siècle. Hein. Si vous avez eu l'occasion de lire comme des manuscrits, ils sont écrits un peu comme ça, c'est rendu difficile. Voilà. Oui, mais ça on l'a vu. Ah oui, un autre point qui n'a rien à faire ici, ils sont endogames. C'est-à-dire qu'on va se marier, ils vont se marier entre eux beaucoup. Au moins jusqu'au 5e siècle. C'est-à-dire qu'ils vont se reproduire là-bas, comme ici, entre eux. Pour garder leur tradition goth. Ensuite, donc on a vu qu'ils avaient migré. Voilà, 3e siècle, 4e siècle intégré, je vous l'ai déjà dit. Commandement de l'Olivo, on l'a vu. Ah, 406. 406, c'est important parce que on va voir déferler sous la poussée des uns un certain nombre de peuples qui vont passer. Ils vont passer, ils vont piller, ils vont passer assez vite. Ce sont d'autres germains. Que ce soit les Vandales, les Suèves, les Alains, tout ceci, ils vont être suivis par les Burgondes et les Alamans, tous ces gens vont passer. Certains se sont fixés, les Burgondes, c'est la Bourgogne, ils sont plutôt fixés par là. Les Alamans, ils ont sémé quelques éléments, c'est le cas de dire par-ci, par-là, y compris dans le Lot-et-Garonne, mais les Alamans sont passés aussi, se sont fondus après avec les Goths quand ils sont venus sur l'Occident. Alors, il y a les Huns, et ensuite, Rome n'arrive plus à faire face. Devant cet afflux de population guerrière, Rome n'arrive plus à faire face et n'arrive plus à payer les gens. Il va replier son armée, il va resserrer les limites de l'Empire romain à l'est. Et il va laisser tout seul les Visigoths. Alors les Visigoths vont être seuls, ils vont bien se battre, ils vont essayer de contenir, les Romains les ont pris pour ça, c'est eux qui, on va les payer, on va les nourrir, on va les blanchir, on va leur, et pour qu'ils retiennent les... Ce qu'ils vont faire jusqu'au moment où, ça fait des années qu'ils n'ont pas été payés, donc ils sont venus, ils ont migré, comme ils savaient faire, leur chariot, là, 3 km par jour, c'est des petites distances, ils sont venus et ils ont suivi le circuit que l'on a vu précédemment. Voilà, donc 200 000 guerriers, c'est pas rien quand même, avec leurs familles, les chariots, les chevaux et tout, arrivent, marchent sur Rome et viennent se servir à Rome. En plus, à Rome, déjà, ça va pas très bien. À Rome, ça va pas très bien, on ne mange pas beaucoup, on a... Le problème, c'est que les Vandales, ils ont, d'ailleurs, on aura toujours ce problème. Les Vandales, ils ont contourné assez rapidement, ils ont contourné l'Espagne, ils vont en Algérie, enfin l'Algérie, au Maghreb, et ils empêchent l'approvisionnement en blé dur, notamment le Rhum. Le Maghreb étant, à cette époque-là, le grenier de blé de Rome, c'était connu avec une forte présence chrétienne. Alors, ce qui est amusant, entre parenthèses, c'est que les Vandales, ils arrivent au début du 5e siècle. Et puis, dans l'Empire romain, déliquescent, il faut dire que l'Empire romain a quelques problèmes dans cette région. Et les Vandales, on voit leur apparition dans les ruines de Tipaza, de Tinga, de Djimila, partout, dans toutes ces ruines, on les voit. Et le problème, c'est qu'ils disparaissent. Ils ont disparu complètement, les Vandales. On les voit disparaître au 7e siècle, à la fin du 7e siècle, quand arrivent les Arabes, il n'y en a plus de Vandales. Hein. Il y a longtemps qu'il n'y en a plus. Mais on a des Berbères, des Kabyles aux yeux roux, aux yeux blonds, blonds, les Kabyles, vous avez, pour ceux d'entre vous qui ont rencontré ici, il y en a beaucoup qui ont les yeux bleus, qui sont plutôt blonds ou roux, et qui n'ont rien à voir avec, tellement avec la population arabe. Ce qui donne quelques... Bon, on ne rentre pas dans le sujet, c'est autre chose. Voilà, donc on arrive, l'ego arrive à Rome. Alors, sur le pillage de Rome, il y a plusieurs versions. Ils sont allés là-bas, c'est sûr. Ils ont piqué le trésor que les Romains avaient piqué à Palestine. Hein, c'est-à-dire, ils se sont servis, bien. Ils ont mis un peu le feu. Bon, je pense qu'il n'y a pas là-dessus, ça va. Sur la destruction de Rome par le feu, il y a d'autres explications qui sont plausibles. Et on les voit aussi ici en Europe. C'est-à-dire que quand il y a eu la peste, on fait brûler des maisons. Mais tant qu'on y était, on a tout mis sur le dos des Visigoths, ça permettait de mieux faire passer la religion, les autres religions. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait? Oui, alors, je suis là. Donc Toulouse, ils passent, ils vont essayer d'aller en Afrique, rejoindre leurs copains les Vandales, mais pour des raisons diverses et variées, leur roi se meurt, ils font demi-tour. Et ils remontent le long de l'Italie pour aller rejoindre finalement leur cousin ou leur grand-père qui était en Gascogne. Hein. Alors juste un mot sur la mort de Théodoric Ier. c'est qu'il a été enterré. Et ça, c'est un point important. Les chefs Goths étaient souvent enterrés dans les lits des rivières. Vous ne demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Hein. On détournait la rivière, on faisait un trou, on mettait le chef avec son or, enfin tout ce qui devait aller l'accompagner à l'autre tombe, mais il remettait l'eau. Ce qui fait que ça permet de comprendre pourquoi plus tard ils n'hésitent pas à s'installer dans les bas-fonds. Ils n'ont pas peur de l'eau. Hein. Voilà. Alors ensuite, ils arrivent, ils se fixent très rapidement, ils passent par Narbonne, oui, mais se fixent très rapidement sur Toulouse, ils créent leur capitale, et ça va devenir un État fédéré. Donc c'est un État fédéré de l'Empire romain, c'est-à-dire qu'avec Rome, ils vont se fédérer à l'Empire romain, et ils vont notamment faire partir tous les Vandales qu'il y avait en Espagne. Les Vueltes, on va les cantonner un peu contre le Portugal. Voilà, donc c'est alors, sur Toulouse, donc on va aller voir, ils vont avoir un certain nombre de palais, un certain nombre de choses, des traces qui restent à Toulouse. Ceci, et Toulouse se réapproprie un petit peu son histoire, mais il faut voir que pendant des dizaines, voire des milliers d'années, on a tout fait pour les faire disparaître. Hein. Pour vous, ceux d'entre vous qui connaissez bien Toulouse, c'est le coin, le quartier de la Dorade, hein, essentiellement. Vous connaissez l'église de la Dorade, sa petite vierge noire et ce genre de choses. Eh bien, l'église de la Dorade était un temple, enfin une église arienne. À côté, il y a le palais des rois, Visigoth, qui a été transformé en hôpital. Et quand on a détruit il y a une dizaine d'années cet hôpital, il y a eu des fouilles, mais elles ont été très rapides. Si vous voulez voir les colonnes des palais des rois Visigoths, vous les avez à Washington. Elles ont été vendues au 19e siècle. Hein. Oui, c'est en maison, ça c'est terrible. Il y a un ostracisme qui a frappé cette culture, qui est quelque chose d'extraordinaire. Mais on va comprendre pourquoi, le pourquoi de cet ostracisme. Voilà, bon, le royaume de. Ce sont. Là, quand ils sont à Toulouse, c'est des Goths qui deviennent très, très romanisés. Ils sont christianisés, ils sont romanisés, ils adhèrent complètement à la culture romaine. C'est plus du tout des sauvages. Tant et si bien qu'au XVIe siècle, on parlera d'eux comme on parlait des Romans. On les appelait les Gaulois Romans. C'est amusant. Et on les appelait Occitans que très récemment. La notion d'Occitan est quelque chose d'extrêmement récent. Donc, alors, voilà. Alors, la Catalogne, la Septimanie et l'Aquitaine seconde. Bon, pour ceux qui veulent, la Catalogne, ça n'a pas changé. La Septimanie, c'est la Narbonnaise, tout ce qui se trouve, le Languedoc. Et puis l'Aquitaine seconde, c'est la Guyenne, quoi, ça va jusqu'à la Guyenne. Ensuite, les troupes visigothes égales armée romaine. Il n'y a plus d'armée romaine, ce sont des armées visigothes, mais que ce soit l'administration ou l'armée, ils ont toutes les prérogatives qu'avaient auparavant les Romains. L'armée romaine et les administrateurs romains qu'ils vont intégrer en plus. Parce que les Romains, il ne faut pas voir qu'ils s'en vont. Quand les Goths arrivent, ils restent sur place et les Goths viennent par-dessus. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de chasse aux sorcières. Il y avait les Gaulois, mais les Gaulois, ils restent. Les Gaulois avaient leur temple, et ils gardent leur temple. Oui, je veux dire qu'il n'y a pas de... C'est une véritable... Il n'y a pas vraiment d'ostracisme, d'aparté entre les Romains. Voilà. Les chants cataloniques, oui, bon, vous savez ce que c'est, les chants cataloniques. C'est ce qui a marqué notamment une des grandes supériorités de la cavalerie goth a été montrée à ce moment-là. Quand l'Empire romain s'effondre, eh bien, le royaume visigoth part, c'est-à-dire il part de la Loire, quoi, il va jusqu'à Gibraltar en laissant de côté le Portugal et les Basques. Donc c'est un grand pays. Alors, voilà, c'est ça. Bon, donc, comme je vous le disais à l'instant, la force du royaume visigoth, sa toute puissance, est due à la capacité qu'avaient les Romains, la reprise cette notion des Romains, à assimiler les populations. C'est-à-dire que les religions, vous allez voir, il y avait toutes les religions romaines, toutes les religions gauloises, quelques religions qui nous viennent du Moyen-Orient, et les catholiques, évidemment. Voilà, donc, c'est simple. Alors, le royaume visigothique de Toulouse,